Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Romains 15, 7. Et maintenant, le texte de la Samaritaine dans Jean 4, 1 à 29. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples, à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Fatigué du voyage, Jésus était assis, tel quel, au bord du puits. C'était environ midi. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau.
Donne-moi à boire.
Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger.
Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme, une samaritaine?
Les juifs, en effet, ne veulent rien avoir en commun avec les samaritains.
Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive.
Seigneur, tu n'as pas même un seau et le puits est profond. D'où la tiendrais-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes?
Quiconque boit de cette eau, si, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra, en lui, une source jaillissant en vie éternelle.
Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir ici puiser de l'eau.
« Va appeler ton mari et reviens ici. »«
Je n'ai pas de mari. »«
Tu as bien fait de dire « je n'ai pas de mari » car tu en as eu cinq. »« Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. »« Et en cela, tu as dit vrai. »«
Seigneur, je vois que tu es un prophète. »« Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. »
Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité.
Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera tout.
Je le suis, moi qui te parle.
Sur ce, les disciples arrivèrent. Ils étaient étonnés que Jésus parle avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu ? » ou « Pourquoi lui parles-tu ? » Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla à la ville et dit aux habitants
« Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?»
Bonjour. Le mot d'ordre de notre Église est « rejoindre ». Mais si on veut rejoindre, il faut aussi accueillir. Je ne sais pas comment vous avez reçu cette parole « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis ». Quel effet est-ce qu'elle vous fait? Moi, je dois avouer que j'aime pas beaucoup cette phrase parce qu'elle me rappelle toutes les personnes que j'ai de la difficulté à accueillir parce qu'elles sont comme ci, comme ça, parce qu'elles me dérangent, je ne sais pas. Et puis aussi, comme le Christ, accueillir comme le Christ, c'est un exemple qui est hors de ma portée. Et chaque fois, je suis rapportée à ce que je suis incapable de faire, à ma culpabilité de ne pas y arriver et à mon état de pécheur. Donc, ce n'est pas ce que j'aime. J'espère que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Parce qu'il me semble qu'il y a en nous, même si nous croyons à l'accueil que le Christ nous a fait, si nous croyons à son amour inconditionnel, toujours en nous quelque chose qui nous dit qu'on doit faire encore quelque chose pour que Dieu soit content de nous et pour qu'on ne risque pas de perdre ce qu'il nous a donné ou qu'il continue à nous donner quelque chose. C'est quelque chose de compréhensible puisque quand on est petit, on sait très bien que quand on fait ce que les parents nous demandent, ce qui leur fait plaisir, eh bien, ils nous renvoient des messages positifs, on reçoit des messages d'affection. Par contre, quand on ne fait pas ce qu'ils attendent de nous, ils se fâchent et c'est des fois pas drôle et on se sent rejeté. Donc, on reporte la même chose sur notre relation avec Dieu. Et puis aussi, toutes les religions sont faites sur ce modèle, hein. Faire des choses pour Dieu, pour le Dieu, pour que le Dieu fasse aussi quelque chose pour nous, qu'il ne soit pas contre nous. Avec cette conception, on aurait pu traduire cette phrase différemment. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis, pour être sûr d'être accueilli par Dieu. Mais je me demande s'il n'y aurait pas une autre façon de voir. Si la pointe de la phrase ne serait pas ailleurs que dans une obligation d'accueillir l'autre. Si le « comme le Christ vous a accueilli » signifiait « vous avez été accueilli par le Christ ». Accueillez-vous les uns les autres de la même manière. Ça change la perspective. Il y aurait donc dans cette injonction une invitation à s'arrêter pour considérer l'accueil que le Christ nous fait. Vivre cet accueil et ensuite accueillir les autres dans la suivance de ce que j'aurais vécu. Donc c'est ce que je vous propose ce matin de faire à travers l'histoire de la Samaritaine. J'ai choisi ce texte parce qu'il y a dans la Samaritaine et dans le statut de Jésus, tous les ingrédients pour qu'il n'y ait pas accueil, pour que rien ne se passe entre eux. D'abord, cette femme, elle ne fait rien pour plaire à Jésus. Elle l'appelle Seigneur, mais c'est juste pour dire Monsieur. Ce n'est pas qu'elle le reconnaît avec une autorité spirituelle. Puis elle est une femme. Et à cette époque, dans ce pays, on parle aux femmes pour leur dire ce qu'il faut faire, mais on ne parle pas avec elle. Et c'est une Samaritaine. Il y a un grand contentieux entre les Samaritains et les Juifs parce que les Samaritains se sont mélangés au peuple environnant. Ils ne sont pas purs, ni dans leur religion, ni dans leur... Ils se sont mariés les uns avec les autres. Donc, pour les Juifs, ce sont des gens à ne pas fréquenter du tout. Donc, beaucoup de difficultés pour se rencontrer. Mais pourtant, il se passe quelque chose, puisqu'à la fin de l'histoire, la femme qui fuyait, hein, qui vient à midi puiser de l'eau à une heure où elle sait qu'elle ne rencontrera personne, voilà, elle qui fuyait les autres, elle va vers les autres à la fin de l'histoire. Et aussi, il se passe aussi quelque chose pour Jésus, parce que Jésus, au début de l'histoire, il est fatigué, il demande à boire, et à la fin de l'histoire, il n'est plus fatigué, il ne demande plus à boire. Alors je vous propose de regarder ça de plus près. Malgré tous ces handicaps, un dialogue s'engage entre Jésus et la femme. Un dialogue un peu bizarre parce que Jésus est dans ses histoires et la femme est dans des histoires spirituelles très loin de la vie de tous les jours. Et la femme est par contre bien campée dans la vie de tous les jours. La femme ironise, la femme se moque, la femme provoque. Voilà. Et je me dis aussi que si on a dans la Bible, c'est dommage parce qu'on a juste les mots, on n'a pas le ton avec lequel la personne parle. Et peut-être que si on avait ce ton-là, on entendrait aussi derrière ce qu'elle dit, qu'elle en a marre de venir puiser de l'eau, qu'elle en a marre d'être une femme, marre des disputes entre juifs et samaritains, marre du jugement des autres, marre des hommes qui demandent à boire quand elle, elle aimerait bien que quelqu'un prenne un peu soin d'elle aussi de temps en temps. Cette femme, finalement, elle est comme elle est à ce moment-là. Le dialogue est difficile parce que Jésus est dans ses histoires spirituelles, elle est dans la vie de tous les jours concrète. Jésus parle de dons, elle, elle parle de puiser, d'effort. Jésus parle d'eau vive, source à l'intérieur de nous de vie. Et il dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissant en vie éternelle. » Et elle, l'eau dont elle parle, c'est une eau qu'il faut aller chercher à l'extérieur, loin de sa maison, dans un puits profond, encore et encore. Il y a un tournant dans le dialogue au moment où Jésus lui demande d'aller chercher son mari. Là, Jésus change de registre. Il est aussi dans le concret de la vie de la femme. Et je me demande si Jésus n'a pas voulu lui faire expérimenter ce qu'est cette eau vive. Et la femme lui avoue, « Je n'ai pas de mari. » C'est quelque chose de très personnel qu'elle dit là. Mais pourquoi est-ce qu'elle le dit ? Le dialogue précédent n'a pas tellement préparé ça. On va revenir au début. Jésus est arrivé à ce puits fatigué. Fatigué de la route, mais peut-être aussi fatigué des hommes qui ne comprennent rien à rien, qui le mettent en compétition avec Jean-Baptiste, qui a fait le plus de baptêmes. Les hommes qui ne reçoivent pas son message et qui ne le reçoivent pas lui pour qui il est. Il est fatigué au point de ne pas vouloir aller à la ville. Et peut-être pas aller à la ville, c'est aussi ne pas rencontrer les hommes. Il a besoin d'être seul un moment. C'est l'heure chaude où les animaux et les hommes restent à l'ombre chez eux. Il n'y a pas de bruit. Ils sont seuls, ensemble, dans ces circonstances particulières. Et Jésus parle. Il adresse la parole à la femme. Adresser la parole à quelqu'un, c'est lui dire « Tu existes pour moi. Donne-moi à boire. » C'est un ordre, mais je doute que, vu la fatigue de Jésus, il y ait eu quelque chose d'autoritaire dans sa voix. Ça devait plutôt être de l'ordre de l'expression d'un besoin. J'ai soif, j'ai besoin. En s'adressant à cette femme, cette samaritaine, lui un homme juif, Jésus brise les barrières, des conventions sociales et religieuses, des préjugés et des a priori, des peurs, des différences qui dérangent, de toutes ces barrières qui nous enferment en nous-mêmes et nous empêchent d'aller vers l'autre. La femme y est sensible et réagit. Est-elle surprise en bien ou dérangée parce que Jésus fait ce qui ne se fait pas ? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose la touche et qu'elle prend elle aussi la parole, une parole franche et directe. Suis ce dialogue un peu chaotique dont j'ai parlé avant, où Jésus parle des choses spirituelles et où elle reste campée dans sa vie concrète. Je me demande si Jésus, à ce moment-là, ne se remémore pas pourquoi il est venu sur la terre et qui il est. Parce que, à cause de ce qu'il vient de vivre. Et je trouve que les remarques et les interpellations de la femme l'y aident. Ça le stimule dans sa réflexion. Quand il lui demande d'aller chercher son mari, il a repris pied en lui-même. Et là, c'est un moment clé de l'échange, parce que l'ambiance du dialogue change. Jusque-là, Jésus s'était tenu loin de la femme dans ses considérations spirituelles. « Va chercher ton mari. » Avec cette parole, Jésus se place sur sa route. Va-t-elle, elle aussi, se mettre sur la route de Jésus? Elle n'est pas obligée de répondre, mais elle répond. Est-ce que vous avez compris pourquoi elle répond? C'est assez difficile. Il y a tout ce qui s'est passé avant. La persévérance de Jésus à parler malgré l'incompréhension de la femme. Mais je crois aussi qu'il y a dans toute rencontre entre Jésus et nous un mystère. Cela se passe entre la personne et Jésus, il n'y a pas de témoin. Il n'y a que la personne qui sait ce qui lui est arrivé avec Jésus. C'est de l'ordre de l'intimité, ça se passe dans le secret du cœur. Cela peut être très fugace, hein, quelque chose à saisir au vol, il faut être attentif. Cela nous appartient, personne d'autre n'y a accès et personne ne peut juger de ce qu'on a reçu. Je n'ai pas de mari. C'est l'aveu d'une faute selon la loi. Les autres le lui ont fait peut-être bien sentir. Et quand on sait qu'elle a eu 5 maris et que celui qu'elle a actuellement n'est pas son mari, on comprend que c'est aussi l'aveu d'un échec relationnel et d'une souffrance secrète, celle de ne pas avoir de réel compagnon de vie. Faire un aveu, c'est laisser tomber un rideau derrière lequel on se cache. C'est faire venir à la surface ce qu'on cache au fond de soi. C'est le faire venir à la lumière. C'est laisser voir. Et par cette parole, la femme laisse Jésus voir ce qu'il y a en elle. Elle laisse voir sa faute. Elle laisse voir son échec, sa souffrance, ce qui n'est pas beau en elle, ce qui est le fardeau de sa vie, ce qui fait qu'elle vient à midi puiser. Est-ce que le ciel va lui tomber sur la tête? Non. Dans la réponse de Jésus, aucun jugement, aucun rejet, aucun mépris, de l'approbation. Tu as bien fait de dire « je n'ai pas de mari ». Car tu en as eu 5 et celui avec lequel tu vis n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. La femme est accueillie, reçue, telle qu'elle. Ce qui est approuvé, ce n'est pas qu'elle ait eu 5 maris et qu'elle vive avec un homme qui n'est pas son mari. C'est qu'elle a dit vrai. Elle s'est tenue dans la vérité de son être. Elle a laissé voir. Et Jésus l'a accueillie et reçue. Elle n'a pas été jugée. Quand Jésus lui a adressé la parole, il savait. C'est en connaissance de cause qu'il lui a adressé la parole. Jésus sait tout ce qui nous concerne. C'est le bon et le moins bon. C'est en connaissance de cause qu'il nous accueille chacun et qu'il nous reçoit. C'est une assurance que nous avons. Le dialogue se poursuit différent, parce qu'ils sont sur le même registre. La femme ne comprend pas tout, mais elle cherche. C'est elle maintenant qui a soif, et il annonce du neuf. Plus besoin de savoir qui a tort ou raison des Juifs ou des Samaritains. Pas besoin de savoir si je suis dans la bonne église ou pas, si j'accomplis les bons rites. Mais leur vient... Jésus dit, mais elle leur vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. En esprit parce que Dieu est esprit et en vérité en disant vrai, comme la femme samaritaine. Tu as dit vrai, tu étais dans la vérité. Ce ne sont plus des rites, c'est une relation. Il se passe encore quelque chose de très important au moment dit « Je le suis, moi qui te parle ». Au début du récit, Jésus était assis au bord du puits, fatigué. Mais quand il prononce cette parole, je l'imagine debout. Les jeunes diraient bien dans ses baskets. Il sait, il a retrouvé qui il est. Le dialogue avec la femme lui a fait du bien. Je le suis, moi qui te parle, c'est une phrase en grec qui est intraduisible exactement en français. Le français n'arrive pas à rendre exactement ce que ça veut dire. Si on voulait être au plus près, ça voudrait dire « je suis le parlant à toi ». Ce « je suis » étant le même « je suis » par lequel Dieu s'est présenté à Moïse au buisson ardent. Et c'est aussi le premier de tous les « je suis » de l'évangile de Jean. Par là, Jésus fait le lien avec sa divinité, le fait qu'il est fils de Dieu. « Je suis », je vois dans cette affirmation, quelqu'un qui dit qu'il est... Je sens que Dieu veut dire « je suis établi ». Je dure envers et contre tout, que les hommes soient pour moi ou contre moi, je suis toujours là. Et le parlant, je pense à la parole faite chair. Je suis le parlant, celui qui ne reste pas caché, celui qui se révèle par la parole. Il est celui qui ne m'ignore pas, qui me fait exister en m'adressant la parole, et qui sera toujours là pour moi. Les disciples reviennent, le dialogue est fini. La femme laisse là sa cruche, elle n'en a plus besoin, elle va vers les autres, et elle parle. Ses circonstances à elle n'ont pas changé, hein. Les autres sont toujours les mêmes, et sa situation conjugale est toujours aussi scabreuse. C'est en elle que quelque chose a changé. Tout indique qu'elle a bu l'eau vive que Jésus donne. Au fil du dialogue, la source d'eau vive a jailli en elle. La femme l'a suivie et la source l'a conduite vers les autres. Pour Jésus aussi, il s'est passé quelque chose. Il était fatigué, assoiffé. Elle n'a pas puisé d'eau pour lui. Elle ne lui a pas donné à boire. Mais il ne demande plus à boire, il n'a plus soif. De quoi avait-il soif? Entre Jésus et la Samaritaine, il n'y a rien eu de magique. Il y a eu la fatigue et le fardeau partagé, le temps passé ensemble, les paroles de l'une et de l'autre qui sonnaient vraies. Tout s'est passé dans la parole, dans la relation. J'en conclus que Jésus avait soif d'un contact, d'une relation, et que la femme le lui a donné. Jésus a soif de nous. Tout moche et vilain que nous soyons, c'est une nouvelle incroyable, mais Jésus est en manque de nous. Donne-moi à boire. J'ai fait mine de ne pas entendre. Je n'étais pas venue pour désaltérer un inconnu. Puiser l'eau pour les miens m'était déjà bien assez épuisant. Je rêvais aussi de m'asseoir et qu'on me donne à boire. J'ai fini par m'étonner. Fallait-il qu'il ait soif, cet homme-là, pour me demander de l'eau à moi, la mal vivante, la mal aimante? Je n'ai pas compris tout ce qu'il me disait. Je sais seulement que ces paroles ont fait une chanson dans ma tête. C'est de descendre dans mon propre puits qu'il me parlait, de passer sous la mousse et l'ombre, d'aller dessous mes eaux dormantes chercher la source jaillissante. Je pouvais laisser ma peur de me perdre dans mes profondeurs, car plus profond encore, l'amour me recueillait. Il m'apprenait l'eau vive d'une vie que je ne soupçonnais pas. Il me racontait Dieu assoiffé sur la margelle de l'humanité et l'appel à le désaltérer. Je l'ai laissé en sachant que je ne le quittais pas. Peut-on se séparer de ce qui ne passe pas? Depuis ce midi-là, ma cruche est au bord du puits. Vous la percevrez si vous passez par là. Mais je vous en prie, ne vous en servez pas. Vous avez en vous de quoi puiser l'eau vive où Dieu lui-même reprend vie. C'est un texte de Francine Carillo. L'accueil de Jésus, c'est tout cela pour chacun d'entre nous. C'est l'eau vive que Jésus donne, l'eau qui fait éclater les prisons, sauter les barrières et qui devient en nous source de vie. Jésus dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. C'est en moi, ce n'est pas en l'autre pour moi ou en moi pour l'autre. Cette vie, elle est pour moi. L'autre la reçoit au moment où lui aussi y boit. Pour accueillir les autres comme le Christ nous a accueillis, ayons confiance. Écoutons ce que cette source de vie nous dit dans le secret de nous-mêmes. Et suivons ce qu'elle nous dit. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il s'agit de suivre en nous la voie de la vie que Jésus donne. Et Jésus nous montre le chemin.